J'ai à cœur de continuer avec vous l'enseignement sur un sujet d'actualité que nous serons tous confrontés dans les mois, les années qui viennent. Après le mariage pour tous qui a passé, vous avez vu, malgré l'opposition qui s'est manifestée dans la rue, parce qu'il y a une volonté de passer ces choses. Et là maintenant, le gouvernement va passer d'autres lois et d'autres théories, d'autres pensées iniques. Et l'autre loi qui va passer, en tout cas l'autre théorie, c'est celle du genre qui est déjà programmée donc à la rentrée dans les écoles. Voilà. Donc l'État, le gouvernement, veut absolument prendre en main les enfants pour les déprogrammer, comme ils disent, de l'enseignement familial, qui est une aliénation, d'après eux, de la manière dont les parents éduquent leurs enfants, en leur disant qu'il y a un petit garçon, une petite fille. Ils disent non, ça n'existe plus. Ce n'est que des enfants neutres. Voilà, ce n'est que des enfants. Et on décide, on choisit le sexe. Hein, vous voyez, donc chaque enfant choisit son sexe. Donc voilà, là, si vous n'êtes pas au courant, la nouvelle religion de Vincent Peillon, qui est le ministre de l'Éducation nationale, qui, si vous voyez Internet ou les journaux, vous pouvez regarder. Il a même écrit dans le Figaro et tout ça qu'il veut faire la guerre aux religions. La guerre aux églises. Donc, vous voyez, la guerre est déclarée. Donc, c'est pas rien. Voilà. Donc, la révolution du genre est en route et les parents sont les ennemis à abattre. Il y a toute une, disons, une volonté dans ce domaine de changer la société. Hein. Et au nom de la République laïque, on établit une véritable religion. Et d'ailleurs, le Claude Bartolone, qui est quand même le président de l'Assemblée nationale, hein, celui qui préside l'Assemblée nationale, Claude Bartolone a dit l'autre jour, l'Assemblée nationale, « La République a besoin de rites. La démocratie est une véritable religion et elle a besoin de rites pour être reconnue et acceptée. » Et donc on rentre vraiment dans des rites religieux. Alors c'est pas nouveau, hein, du 19e siècle, quand la République laïque a été créée en 1870, après le passage de l'Empire. Effectivement, ça a déjà été pris en main dans cet esprit-là, d'où en fait toutes les lois de la République laïque qui ont émergé. Et donc là, ça revient en force avec une volonté vraiment de changer les mentalités. Et il dit aussi, Vincent Peillon, il dit, si on veut s'en sortir, la République n'a d'autre issue que de lutter contre ces forces rétrogrades en s'inventant une histoire. Vous voyez, donc carrément, il faut s'inventer une histoire pour exister. Donc la République veut exister en tant que telle. Donc dans une dialectique historique, la République socialiste doit naturellement annuler le passé, donc le christianisme. Donc vous voyez, il faut éradiquer le christianisme. Et d'ailleurs, ça a été une volonté dans la nouvelle constitution qui malheureusement n'a pas passé, enfin heureusement n'a pas passé, où dans le préambule de la constitution européenne, il était dit que l'histoire commençait au siècle des Lumières. Et donc on a complètement oublié que l'Europe était fondée sur le christianisme. Et heureusement, des pays comme la Pologne ou autres sont venus à la rescousse, et aussi les Français qui n'ont pas voté cette constitution. Mais vous voyez, toutes les intentions sont là de nos gouvernants de vouloir éradiquer le passé. On est en pleine guerre de religion, hein, religion laïque contre le christianisme. Et le grand prêtre, en fait, donc c'est Vincent Peillon actuellement qui est le grand prêtre de cette vision, la vision de l'école qui est une nouvelle église. Voilà, et on va imposer des rites dans les églises, comme ça a été le cas dans l'éducation nationale à l'époque de la création de la Première République, en fait de la Deuxième République. Voilà, donc vous voyez, on est dans un sujet d'actualité. Alors, c'est important. Quelqu'un qui disait que, enfin quelqu'un qui, non, c'est une réalité, quand on veut former dans la police des gens qui peuvent détecter les faux billets, les billets de banque, qu'est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on les forme? Quelle est la formation qu'on donne à des policiers? Je ne sais pas ce que c'est. Ton mari n'est pas là. Quel type de policier? C'est policier de douane ou je ne sais pas. Enfin bref. Bon, ça c'est de la technique. Et comment est-ce qu'on forme ces policiers pour que, je sais pas, si tu as un commerce, tu fais venir la police, tu dis, ben là, je pense que j'ai des faux billets, là. Qu'est-ce qui se passe? Alors, bien sûr, des machines, des choses comme ça. Mais il y a des gens qui sont spécialisés pour détecter les faux billets. Et comment est-ce qu'on les forme? Pardon? Oui? Comment tu le sais, ça? Ouais, c'est exactement ça. Pour les former, on leur donne jamais de faux billets. On les forme jamais. On leur donne aucun faux billet. Quand on forme ces gens-là, on leur donne que des vrais billets. Voyez, et pendant des mois, et je ne sais pas combien de temps ça dure la formation, hein, mais on leur donne des vrais billets. Dites, mais c'est trop simple. Mais non, pas trop simple. Parce que au moment où on leur donne un faux billet, ils le voient tout de suite. C'est ça la puissance de la détection. C'est-à-dire qu'ils ont tellement l'habitude de voir des vrais billets, tous les détails, vous voyez, on les forme les détails. Alors je pense que la formation doit être adaptée à ça, où chaque coin du billet, voilà, est précisé, voilà, et on doit peut-être leur expliquer pour quel détail. Bon, ça, je ne connais pas le détail de la formation. Mais enfin, il y a certainement une logique, une pédagogie de formation. Mais en tout cas, on leur donne que des vrais billets. Vous voyez, et au moment où ils ont pratiquement fini la formation, à la fin, l'expérimentation, c'est de leur donner des faux pendant ce temps-là, et tout de suite, ah, il est faux. Pourquoi il est faux? Ben voilà, ça. Pourquoi il est faux? Alors on leur donne un tas de faux billets, bien sûr, différentes malfaçons. Mais ça, c'est à la fin de la formation, pour vérifier s'ils sont des vrais. Alors pourquoi je vous donne cet exemple-là? Pour vous dire que moi, j'ai envie, ce matin, enfin dans cette série, de vous donner les vraies réalités du genre. Parce que là, l'idée, c'est de faire la théorie du genre selon la République laïque socialiste, hein, qui est effectivement d'expliquer ce qu'elle entend par le genre. Or, moi, je ne veux pas vous expliquer ce qu'eux, ils disent. Ça, vous n'avez qu'à prendre les journaux pour le savoir. Mais je vais vous dire ce que la Bible dit du genre. Alors, je vais vous former au vrai. Okay? Et c'est comme ça que nous devrions être formés dans tous les domaines. Cherchez le vrai. Voyez-vous? Si vous avez un conflit avec quelqu'un, cherchez pas ce qui ne va pas chez la personne, cherchez le vrai. Et vous appliquez le vrai sur la situation. Et comme ça, vous rentrez pas dans des jeux avec les gens. Vous restez toujours sur la vérité, sur la réalité, sur l'autorité de Jésus. Amen. Donc vous restez édifié. Voyez-vous, l'idée, c'est de rester édifié, de ne pas vous abaisser. Jésus ne s'est jamais abaissé à discuter, alors jamais avec les démons, et encore moins aussi avec les autorités ou tout ça. Simplement, il appliquait la vérité et il les renvoyait à leur responsabilité. Donc voilà, je voudrais vous parler, non pas de la théorie du genre, parce que la théorie, c'est toujours une hypothèse, mais à ce que c'est que le genre dans la Bible. Alors, vous voulez savoir ce que c'est que le genre dans la Bible? Alors, qu'est-ce que c'est que le genre? Il y en a qui ont des idées? Vous savez ce que je veux dire par genre, quand même? Non? Le genre. De quoi je parlais en parlant du genre? Homme-femme? Quelqu'un a une autre hypothèse à émettre? Quand je parle de genre, la Bible donc parle de genre. De quoi elle parle la Bible? De quoi parle-t-on? On parle de genre. Pardon? Masculin, féminin? Ouais. Voilà. Alors. Donc on va revenir à l'enseignement du genre dans la Bible. Donc c'est masculin, féminin. Alors j'ai une grosse difficulté avec vous, comme avec moi d'ailleurs, hein, mais moi j'ai passé un peu avant vous dans cet enseignement. Donc ça me facilite les choses, mais j'étais pas plus avancé que vous, hein. C'est que il faut d'abord que je vous déprogramme sur ce que vous savez, parce que quand on est sur une idée, on ne peut pas embrasser une autre idée si on est sur l'ancienne idée. Vous voyez, c'est ce qu'on appelle un sillon. Quand on est dans un sillon, pour sortir du sillon, je ne sais pas si vous avez déjà fait de l'agriculture, quand vous avez un sillon, en général, vous revenez dans le sillon. Si vous êtes juste à côté, vous revenez dans le sillon. C'est obligatoire. Donc il faut fermer le sillon et puis recommencer un nouveau sillon. Sinon, et ça, c'est dans notre pensée, c'est comme ça. Donc j'ai une grosse difficulté, je le sais, parce que vous êtes formaté d'une certaine manière, et le monde vous formate, et le monde nous formate, et toute la difficulté c'est de sortir du sillon. Alors j'ai quand même des livres à vous proposer qui peuvent vous aider à vous déformater. C'est d'une part les livres de Leanne Payne, qui est une femme que le Seigneur a utilisé pour aider les homosexuels à sortir de l'homosexualité, et elle est extrêmement efficace dans son ministère. C'est une Américaine, et elle a écrit un livre qui est vraiment fabuleux, La crise de la masculinité. Quels sont ceux qui l'ont lu déjà ? Crise de la masculinité, personne. Bon, si vous ne lisez pas ce livre-là, vous ne pourrez pas sortir de votre programmation que le monde vous fait, c'est évident. C'est évident. Ce livre-là est un. Elle a vraiment prié pour chaque livre. Elle a prié des années. Elle n'a pas sorti beaucoup de livres, mais à chaque livre qu'elle a sorti, je peux vous dire que c'est une bombe dans le domaine de la compréhension de certaines choses sur le plan biblique. La crise de la masculinité, c'est pas simplement la crise de l'homme, hein, en tant que masculin, mais c'est la crise de notre société qui est décrite. Et aujourd'hui, notre société ne peut pas aller autrement que vers les problèmes qui sont décrits ici. Donc, je vous invite à le lire, peut-être sur la plage, si vous avez à la plage ou à la montagne, mais c'est quelque chose, moi je le lis régulièrement, parce que c'est vraiment une révélation qu'elle a reçue et qui nous aide à comprendre la société dans laquelle nous sommes. Donc crise de la masculinité, c'est un must dans ce domaine-là. Le deuxième, qui est un peu plus technique, tout le monde va pas forcément adhérer à tous les schémas, c'est beaucoup schématisé et tout ça, c'est Christian Schwartz, mais je vais l'offrir aussi à nos leaders de l'Église, vers une nouvelle expérience de Dieu, qui également aborde cette question du genre sous un autre angle totalement différent, mais qui est complémentaire, et bien sûr il y en a bien d'autres, mais en tout cas je vous cite ces deux-là desquels je m'inspire, comme ça vous saurez d'où vient ma théologie. Vous pourrez venir me voir si vous n'êtes pas d'accord avec la théologie. Mais en tout cas, sur ces deux personnes-là, j'ai vraiment une grande confiance. En particulier, Leanne Payne s'appuie totalement sur les travaux de C.S. Lewis, celui qui a fait Narnia et autres, qui est un des plus grands théologiens du XXe siècle. Alors, pour comprendre le genre, je vais quand même vous lire un petit peu l'introduction qu'elle fait, parce qu'elle est beaucoup plus affermie dans ce domaine que moi, donc je m'appuie sur ce qu'elle va nous dire dans ce livre. Je vais parler des causes psychologiques, historiques et philosophiques de cette maladie culturelle qui se répand comme une véritable épidémie et que j'ai appelée la crise de la masculinité. Finalement, j'examinerai la nature même du masculin, tout au moins pour en montrer quelques-unes des racines. J'aborderai aussi les caractéristiques du féminin, donc dans ce livre, mais il est impossible de considérer l'un sans l'autre. Le masculin et le féminin sont, pour ne parler que l'un de leurs aspects, deux pôles complémentaires du psychisme de chaque être humain. Une grande partie de ce qu'on qualifie de maladie ou instabilité émotionnelle est seulement la conséquence du refoulement dans la personnalité du masculin et du féminin, ou d'un manque d'équilibre entre les deux. Il y a aussi un grand auteur aussi chrétien, qui est Karl Stern, qui a écrit sur ces sujets-là, donc vous pouvez aussi lire Karl Stern, sur le masculin et le féminin, qui ont des dimensions transcendantes. Transcendantes, ça veut dire qui sont reliés entre l'humain et le divin, entre Dieu et nous, c'est ça, transcendant. le genre masculin ou féminin, qui est une partie vitale de notre vrai moi et de notre personnalité, trouve en fin de compte ses racines en Dieu. Donc là, je vais m'arrêter un instant pour dire que, et c'est là qu'il faut vous déprogrammer, et c'est pas évident, c'est que le masculin et le féminin sont, je dirais, très loin de ce qu'on appelle la sexualité de l'homme ou de la femme. La sexualité, parce que quand on parle masculin-féminin, on pense sexe masculin, sexe féminin. Et c'est là que si on n'est pas déprogrammé, on est rigidifié là-dessus, on ne comprend pas du tout ce que la Bible veut dire. Et la plupart du temps, on est bloqué là-dessus. On pense sexe quand on passe masculin-féminin. Or, sexe, ce n'est que un centième, ou un millième, ou un millionième de l'application du masculin et du féminin, voyez. Ça veut dire que quand on parle masculin-féminin, on pense homme-femme. Et si on pense homme-femme, en fait, on ne peut pas comprendre ce que la Bible dit. C'est en ça que je veux dire, si on ne se déprogramme pas, on n'arrive pas à comprendre. Alors pourquoi? Parce que je vais prendre un schéma qui va être utilisé tout au long de l'enseignement, qui est un schéma qui est repris aussi dans le livre de Christian Schwartz, qui est la Trinité. Vous savez que Dieu est trinitaire. La Trinité de Dieu, c'est le grand sujet théologique d'affirmation de la foi chrétienne dans les différents conciles qui étaient les conciles des premiers chrétiens qui se sont réunis en Église et qui ont défini ce en quoi on devait croire. Et le Dieu trinitaire est donc le Dieu qui est Père, qui est Fils et qui est Esprit. Cet esprit. Vous êtes d'accord avec ça? Sachez que le mot Trinité n'existe pas dans la Bible. À aucun moment donné, on utilise ce mot-là pour définir Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu, on ne peut pas le définir, si vous voulez. Dieu, on n'a pas. Disons, nous, créatures, on ne peut pas s'amuser à définir Dieu. Lui qui nous a créés, donc nous, créatures, on voudrait définir Dieu. Donc, ce n'est pas possible. La Bible n'est qu'un livre qui nous aide à rencontrer Dieu, à expérimenter Dieu. Dieu, c'est l'ineffable. On le chante dans nos chants de louange. Dieu, c'est l'admirable. Dieu, c'est celui qui est insondable. Dieu, notre intelligence, notre raison, notre capacité n'est pas suffisante pour comprendre qui est Dieu. Vous êtes d'accord? Okay. Par contre, Dieu se révèle dans l'histoire et que la Bible relate de différentes manières. Et les théologiens ont tous remarqué que ce Dieu de la Bible, il est un. C'est le principe du cercle. Il est un. Il n'est pas divisé. Ce n'est pas un Dieu polythéiste de différents dieux qu'on parle. C'est un seul Dieu. Par contre, en même temps, on s'aperçoit que la manière dont Dieu se révèle, quand il se révèle à Moïse, par exemple, Exode 34, quand Dieu se révèle à Moïse, il se révèle comme étant « je suis », celui qui est. Quand Moïse dit « oui, mais comment est-ce que je vais aborder le peuple en Égypte pour lui dire que tu m'as parlé ?» C'est qui tu es ? Qui es-tu ? Vous voyez, si quelqu'un vous envoie en mission et vous ne savez pas qui vous envoie, celui qui vous reçoit, dites, attendez, là, vous venez en votre propre nom, je ne reçois pas, qui est-ce qui vous envoie? Donc il faut toujours savoir qui vous envoie. Et Moïse voulait savoir. Et Dieu lui a dit, je suis celui qui est. Je suis Yahvé. D'accord? Je suis celui qui est. Donc on voit déjà que c'est quelque chose d'insondable. Quelque chose, Dieu est quelqu'un que l'on ne peut pas mettre dans une boîte, si vous voulez. Il est celui qui est. C'est l'être. C'est l'être par excellence. Il est l'être. Voilà. Ensuite, on voit quoi? On voit que les prophéties parlent d'un Messie, de quelqu'un qui va être envoyé pour sauver le peuple de ses péchés. Et tous les prophètes, Ésaïe, Ézéchiel, etc. Et qui est ce Messie? Jésus. Jésus a accompli les prophéties. Okay. Donc le Fils est celui qui a révélé le Père. Vous êtes d'accord ? On est toujours dans la doctrine chrétienne. Donc le Fils, c'est la manifestation du Père. C'est la manifestation. La manifestation de l'être. Oui, de l'être. Et c'est pour ça que le Fils, quand vous lisez tout ce qui concerne le Fils, Jésus en particulier, Paul, hein, qui avait une grande révélation sur ce qu'on appelle la christologie, sur Christ, eh bien, il va dire que Christ, il est tout en toute chose. Tout en toute chose. C'est-à-dire que Dieu est celui qui est. Mais Dieu a créé toute chose, l'univers. Tout l'univers, y compris nous qui sommes faisons partie de l'univers. Donc en fait, vous voyez, il y a une séparation entre celui qui est et celui et la création. C'est pour ça qu'il y a une séparation entre les personnes. Parce que Dieu ne peut pas être en même temps, enfin, le Père, celui qui est et la création. Or Jésus est toute la création, représente toute la création de Dieu. Il est le créé, mais par le Père, il représente le Père. On appelle ça la question d'ontologie dans la Trinité. Et à cause de ces deux personnes, qui en fait ne sont distinctes que par leur relation. Il n'existe pas des personnes distinctes, si vous voulez. Mais je vais vous expliquer tout à l'heure dans des exemples que vous compreniez bien. Mais au travers de la relation, hein, entre le Père et le Fils, hein, et cette relation est bien décrite dans Jean 17, hein, comme le Père est en moi, ainsi moi je suis en lui, etc., et vous, vous êtes en moi, etc. Vous voyez cette relation entre les deux. Dans cette relation, on voit que l'être, je suis, est en communion avec celui qui est la manifestation, qui concentre tout l'univers en lui, Jésus-Christ. Et c'est pour ça que tous les scientifiques qui cherchent la révélation de l'univers, ils vont découvrir Jésus-Christ. Jésus-Christ, et c'est pour ça beaucoup plus que vous ne pensez, des vrais savants, pas des pseudo-savants qui envoient des théories, hein, c'est pas des théories, c'est des découvertes, eh bien, ils rencontrent Christ, Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ est au centre de tout ce que Dieu a créé. Il est le centre. Et enfin, on voit l'Esprit. L'Esprit à la Pentecôte. Bien avant, hein, l'Esprit a été envoyé sur tous les prophètes pendant l'Ancien Testament. Mais à la Pentecôte, on voit l'Esprit qui apparaît, on le voit déjà au moment du baptême de Jésus. Et l'Esprit, c'est quoi ? Quelle est la particularité de l'Esprit dans la particularité de Dieu, dans la particularité divine ? Je recommence. Le Père, c'est l'être. Le Fils, c'est la manifestation. Et l'Esprit, c'est quoi dans cette relation trinitaire? C'est l'exécution. Il exécute. L'exécution. Vous voyez, on appelle ça les opérations du Saint-Esprit, si vous voulez. Hein, pourquoi? Parce qu'à un moment donné, il faut de l'action. Hein, il faut de l'action. L'être, celui qui est. Christ, celui qui est manifesté dans toute la création, il est le centre de toute la création, et après il faut l'action. Moi j'ai appris quand j'ai fait des études d'ergonomie que tous les recherches sur l'homme, c'est que l'homme est fait pour l'action. Si l'homme n'agit pas, enfin l'homme et la femme, hein, je parle, si l'homme n'agit pas, il développe des maladies. Vous avez déjà remarqué ça? Tout le monde vous dit de vous bouger un petit peu, hein, ne serait-ce que sur le plan physique, quoi. Hein. Bon, ça c'est un petit élément, mais dans tous les domaines, si l'homme n'agit pas, parce que Dieu nous a créés avec des sécrétions, vous avez entendu parler d'adrénaline ou d'autres choses comme ça, voilà, toutes ces sécrétions sont là pour agir. Et quand on n'agit pas, ces produits chimiques, ils dégradent notre propre être. C'est pour ça qu'il faut se bouger, si vous voulez, il faut agir. Donc ça développe des maladies corporelles, mais aussi des maladies psychiques, des maladies psychosomatiques, des maladies de toutes sortes, des ulcères, des névroses, etc. Je vous renvoie à nos médecins qui ont fait toutes ces études qui sont maintenant prouvées. Donc il faut de l'action. Il faut de l'action. Et le Saint-Esprit, c'est celui qui agit sur l'ordre du Père et du Fils, qui sont unis, qui sont un. Et l'action est un avec le Père et le Fils. Voyez-vous, le Saint-Esprit ne fait rien de lui-même, il le fait par l'action du Père et du Fils. Vous me suivez jusque-là ? Je vous décroche pas, là ? Dites-le moi, hein, si je vous décroche, parce que parfois on me dit que je suis un peu compliqué. Donc j'essaie d'être simple, mais quand même dans la réalité de ce que dit la parole. Donc dites-moi s'il y a des choses qui sont un peu abstraites. Non, est-ce que ça va pour l'instant ? Quels sont ceux qui veulent une précision ? On résume ? La Trinité, c'est un concept théologique, c'est-à-dire qu'il essaye d'expliquer ce que c'est que le Dieu de la Bible. Or, aucune autre religion que le christianisme n'a ce concept-là. Il n'y a que dans la religion chrétienne que ça existe. Et dans ce concept-là, la Trinité est un terme qui veut dire qu'il y a un seul Dieu, le cercle, et qu'il y a trois personnes. Alors bon, les théologiens utilisent des hypostases, etc. Enfin, je vous passe des mots, hein, théologiques, mais... Je pourrais vous donner des détails pour ceux qui veulent le savoir, parce que on décrit quelque chose qu'on ne peut pas comprendre. Donc, vous voyez, on est obligé parfois d'utiliser des mots qui sont un peu particuliers, parce que on décrit des choses qui nous dépassent. Mais peu importe. Dans la manifestation de Dieu, il y a le Père qui est l'être, Yahvé. Je suis celui qui suis. Dans la Bible, nous voyons le Messie, Jésus, mais qui n'est pas simplement le sauveur de l'humanité, qui est aussi celui qui a créé toute l'humanité, qui a créé tout l'univers, y compris l'humanité. Il est l'origine de la création. Amen. Je lis assez souvent ce passage pour que vous le connaissiez presque par cœur, c'est dans Colossiens, hein, qui est un peu le centre de cette compréhension de Christ. Vous savez que Colossiens, c'est l'épître qui manifeste la gloire de Christ sur son Église. Et dans Colossiens, il est dit qu'il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. C'est Jésus, le premier-né de toute la création. Car en lui, tout a été créé. Car en Jésus, tout a été créé. Dans les cieux, sur la terre, ce qui est visible, invisible, trône, souveraineté, principauté, pouvoir. Donc tout. Tout a été créé par lui et pour lui. Amen. Il est avant toute chose et toute chose subsiste ou toute chose, toutes les parties de la création sont maintenues à leur place grâce à Jésus. C'est pour ça que je vous disais que tous les scientifiques, qui sont des vrais scientifiques, hein, pas des pseudos, ils découvrent Christ. Il découvre Christ. Et Samuel, qui a fait des études de physique très poussées, il me disait, il y a des professeurs maintenant qui disent, on ne comprend plus, il y a des choses qui nous dépassent, parce que le spirituel rejoint le matériel. Et c'est normal, parce que tout est spirituel. C'est Jésus, le Fils, qui est la manifestation de l'être, qui est l'univers, la création tout entière. Okay ? Et le Saint-Esprit ? Le Saint-Esprit, celui qui agit. La dynamis, vous avez entendu parler de la dynamite. Dynamite vient de dynamis, grec. Eh bien, c'est la dynamite de Dieu. Le Saint-Esprit était là, dans Genèse chapitre 1er, verset 1, où Dieu créa les cieux et la terre. Il est dit que l'Esprit planait au-dessus des eaux, quand c'était le chaos, et par lui, eh bien, Dieu a créé la lumière. Dieu a créé les soleils, Dieu a créé les étoiles, Dieu a créé toutes choses. Et par le Saint-Esprit, il agit. C'est la puissance de Dieu. C'est l'action de Dieu. C'est par le Saint-Esprit qui donne la vie. C'est par le Saint-Esprit qui donne la vie à l'Église, qui donne la vie à la matière, qui donne la vie enfin, au biologique, etc. Donc c'est l'exécution, c'est l'opération. Allô ? Vous êtes toujours avec moi ? Ça va ? Alors, c'est là que je vais vous choquer, mais un bon choc, hein, un bon choc de déprogrammation, ok ? Vous êtes prêts à être déprogrammés ? Qui est-ce qui est prêt à être déprogrammé ? Ok. Eh bien, le masculin, c'est ça. D'accord ? J'ai pas dit l'homme ni la femme. J'ai pas dit le sexe. J'ai dit le masculin et le féminin, c'est là. Voilà. C'est ça le genre dans la Bible. Et c'est ça ce que Leanne Payne explique dans ses livres, C.S. Lewis explique. Ça va, vous êtes bien choqués ? Troisième, mais il n'y a pas de genre. Il n'y a pas de masculin féminin. Alors pourquoi ? Alors là, je rejoins un autre livre, c'est celui-là. Celui-là. Qui est la bipolarité. Là, en fait, c'est deux pôles. Alors, attention, maintenant, je m'écarte de Dieu, hein, dans le sens où Dieu est un être qui nous dépasse. Donc on ne va pas le décrire, on ne va pas chercher à le décrire. Personne ne l'a jamais décrit. Il n'y a que dans l'éternité qu'on peut le connaître. Moïse a dit, Seigneur, montre-moi ta face. Il a dit, ce n'est pas possible. Okay? Donc ne cherchons pas l'impossible, puisque Moïse, on lui a répondu, ce n'est pas possible de connaître Dieu dans ce monde. On le connaîtra quand nous serons avec lui. Amen. Il faudra toute l'éternité pour le découvrir. Donc, ici, je reviens à la création, hein, la manifestation de l'être. Hein. Quand Dieu a créé les choses, en fait, il a créé l'homme et la femme selon quoi ? Alors, on va lire Genèse chapitre 1er. Genèse chapitre 1er, verset 27. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Et après, homme et femme, il les créa. Rien que ces deux petits mots sont essentiels pour comprendre la Bible. Il le créa, donc Adam ou Adama, c'est la poussière, hein, il le créa et il les créa, homme et femme. Alors là, il faut bien comprendre ce que ça veut dire, ça. Il ne faut pas décrocher là. Dans tout ce que Dieu crée, dans ce qu'il a créé, au travers de Jésus, dans la nature, il y a toujours deux pôles. Alors, pôle masculin, pôle féminin, mais vous pouvez aussi appeler ça pôle gauche ou pôle droite, ou pôle gauche, pôle droite, enfin, peu importe. Il y a deux pôles. Et grâce à ces pôles, ça c'est l'invention de Dieu, hein. On ne fait que découvrir les choses. Que l'invention de Dieu, c'est que grâce à ces deux pôles, il y a créativité. Sans ces deux pôles, la créativité n'existe pas et ne peut pas exister. Et c'est ça qui est formidable. Et c'est pour ça que la fameuse République socialiste laïque va complètement planter l'humanité. Complètement. Pourquoi ? Parce que quand elle décrit un genre neutre, ça veut dire qu'on va complètement enlever toute créativité à l'être humain. Ce que Dieu avait prévu dès l'origine. Voyez ? Prenez des exemples. Et je vais prendre un exemple, celui où est dit que Adam, donc le premier homme, homme ou femme, le premier homme, a été créé par Dieu à sa ressemblance. Alors en quoi l'homme, alors je parle homme ou femme, hein, l'homme, Adam, je parle après le sexe, vous voyez, c'est après. Il les créa, c'est le sexe après. Okay. Mais il le créa, c'est en termes de genre. Pour répondre à ce genre, entre la polarité qui est créatrice, il est dit, il le créa. Donc homme et femme, on est créé de la même manière, à l'image de Dieu. Et en quoi sommes-nous à l'image de Dieu ? C'est là la question. En quoi sommes-nous à l'image de Dieu ? Allô ? Voilà, alors déjà il y a trois parties, très bien. Il y a corps, âme et esprit. Alors, je vous précise tout de suite que la plupart des évangéliques ne séparent pas l'âme et l'esprit. L'âme et l'esprit, parce que dans la Bible, très souvent, âme et esprit, psyché et pneuma, disons, il n'y a pas énormément de différence. Donc, nous, avec Jack et Ford et avec le torrent qui purifie, on a bien appris ça, parce qu'ils apparaissent dans la Bible. Parce que c'est des principes de vie, hein, mais des principes de vie un petit peu différents. Donc ça, c'est bien. Deuxième chose, en quoi sommes-nous créés à l'image de Dieu ? comme des créateurs, oui. Oui, voilà, nous procréons, nous créons en collaboration avec Dieu, oui. Tout à fait. Oui, Dieu, voilà, on a la relation entre le Père et le Fils et l'Esprit. On est créé pour avoir des relations. En quoi sommes-nous à l'image de Dieu ? Pourquoi la Bible dit que Dieu a créé l'homme à l'image de Dieu ? Qu'est-ce que vous comprenez, vous, avec ce verset, à l'image de Dieu ? La ressemblance, oui, mais alors j'essaie de décrire cette ressemblance, voilà. Pour que ce soit bien clair en vous et que vous lisez la Bible, vous pouvez bien comprendre ce qu'il y a derrière notre ressemblance. En quoi ressemblons-nous à Dieu ? Voilà, ça c'est le but, mais c'est pas la description de l'image. Quelle est l'image ? Pardon ? Oui, et ça c'est des caractéristiques, tout à fait. On peut aimer comme Dieu a aimé, donc tout ça, ça nous est donné, tout à fait. Pardon ? Oui, de toute façon, la vie ne vient que de Dieu. Dieu donne la vie, sans la vie, on n'existerait pas. Alors voilà, alors on commence à toucher des choses là. L'action, vous voyez, l'action, elle est là. Hein, Dieu, il agit. Amen. Il agit par son esprit. Donc dans cette case-là, vous pouvez mettre l'action. Et je vous ai dit tout à l'heure, toutes les découvertes scientifiques aujourd'hui, dans tous les domaines, montrent que s'il n'y a pas d'action, si l'homme n'agit pas, enfin l'homme et la femme, hein, n'agit pas, il se détruit. C'est-à-dire il développe des maladies, il développe des cancers, il développe des maladies psychosomatiques, etc. Donc l'action est importante. Donc l'action est là. OK. Vous voyez, l'action, on pourrait l'associer au corps déjà. Donc on a déjà une correspondance où le corps est là pour agir. Hein. Alors Dieu il a d'autres possibilités que le corps. Il a les esprits, il a tout un tas de choses. Il agit. Ah, ça y est, on commence à toucher les choses. Là. Il faudrait que tu lises Léane Payne, dis donc. On sent que tu as la fibre là. Ok. Quelqu'un d'autre veut rajouter quelque chose ? Vous êtes presque. Il n'y a plus qu'une seule chose à trouver. Oui ? Ah, je vous mets en stress là. En quoi, donc je repose la question, en quoi ressemblons-nous à Dieu ? Il est dit, l'homme, Dieu a créé l'homme à son image. Donc en quoi ressemblons-nous à Dieu ? Nous sommes tripartites, effectivement. Oui, on est tripartites. Mais il faut trouver les trois composantes, c'est tout. Oui, absolument, absolument. Alors maintenant, il faut dire... Non, alors corps, âme et esprit, on l'a signalé, c'est un peu plus compliqué à expliquer avec ça parce que des évangéliques ne se dissocient pas âme et esprit. Donc après c'est un peu plus compliqué, je reviendrai éventuellement là-dessus pour vous donner la correspondance entre âme et esprit. Mais il y a quelque chose d'absolument fondamental qu'il faut comprendre, en quoi nous sommes à l'image de Dieu. Alors là aussi je vais vous choquer, donc accrochez-vous au siège parce que je vais vous déprogrammer. Donc ici c'est l'action. Ici, c'est la raison, l'intellect, et là, c'est l'émotion. C'est-à-dire, là, c'est le cerveau. Alors, voilà, c'est le cerveau. Dieu nous a donné un cerveau. Il y en a quelqu'un qui n'a pas de cerveau ici ? On a tous des cerveaux. Hein ? Parce que réfléchissez un petit peu, c'est quand même pas compliqué à trouver. Hein ? Quand vous disséquez le corps, hein, même le cœur, hein, on parle du cœur, mais le cœur c'est un organe. Maintenant, on change les cœurs, on change. Et vous voyez bien que si on change le cœur, personne n'est pas changé dans sa personnalité. Hein, okay. Donc, il n'y a que des organes physiques en dehors du cerveau. Et le cerveau, c'est le traitement de l'information. Ok ? Voilà. Alors, on est presque en ordinateur, on va revenir tout à l'heure un peu à la comparaison des ordinateurs. Mais. Si vous prenez un être humain, la particularité entre l'être humain et l'animal, en dehors de l'esprit, hein, l'esprit et voilà, je reviendrai tout à l'heure là-dessus, c'est que le cortex, le cerveau de l'être humain est plus développé que l'animal. L'animal, on appelle ça le cerveau limbique, c'est-à-dire ça lui permet de trouver sa nourriture, de manger, etc. Voilà. Mais pas de réfléchir, pas de se mettre en relation, de se projeter. Ils peuvent créer certains outils, disons, rudimentaires, mais ils ne peuvent pas philosopher, parler de Dieu, parler du sens de leur existence, etc. etc. Ok ? Vous êtes bien d'accord ? Donc, Dieu a créé l'homme qui est au-dessus de l'animal, c'est pour ça qu'il doit dominer, mais il lui a donné un cerveau. C'est pour ça, les évangéliques qui veulent qu'on soit des chrétiens sans cerveau, je veux dire, ils n'ont pas compris ça. Vous voyez ? Et alors, je ne vais pas les critiquer, je veux dire, je les prends pitié, c'est tout. Parce que le fondement de notre image de Dieu, c'est le cerveau. Et le cerveau, il a deux hémisphères. Allô ? Vous avez entendu parler des deux hémisphères du cerveau ? Ok. Bicéphale. Vous avez deux cerveaux, c'est ça ? Donc je vous dis que les hommes aussi ont deux cerveaux. Donc il y a deux hémisphères qui sont l'un masculin et l'autre féminin. Voyez-vous ? Ça c'est le genre. On reste sur le genre. On n'est pas sur le sexe. On est sur le genre. Et ces deux cerveaux qui sont la particularité de l'être humain pour qu'il puisse au moins marcher dans l'âme. Donc la différence entre l'âme et l'esprit, c'est que l'âme, c'est la capacité naturelle de fonctionner. Hein. C'est les émotions, l'intelligence et la volonté qui agit sur l'action. Hein. Émotion, intelligence, volonté. On retrouve ces trois termes de l'âme sur lesquels tout le monde est d'accord. Dans toute l'humanité, que ce soit les philosophes ou pas les philosophes athées ou autres, bon, ils savent tous que l'âme, c'est ça. La seule chose, c'est que les Grecs et les Égyptiens disent que l'âme est immortelle. Et ça, c'est faux. Ça, c'est faux. Ça, c'est une erreur. C'est l'esprit qui est immortel. C'est pas l'âme. Okay. Parce que tout est basé sur l'immortalité de l'âme, qui est pas du tout une notion biblique. Mais bon, comme je vous l'ai dit, ça, c'est un peu plus compliqué. On y reviendra après. Je reste sur le cerveau. Cerveau gauche. Cerveau droit. C'est un peu inversé, il suffit de regarder la personne derrière et vous retrouvez le truc. Cerveau gauche, c'est celui qui dirige tout ce qui est la raison, la logique, le langage, ce qui est la rationalité, c'est-à-dire qui découpe en morceaux, qui analyse, qui machin, etc. Cette partie, normalement, les hommes, ils sont plus développés dans ce domaine-là, mais il suffit pour des femmes de les rendre des hommes, et vous pouvez leur donner un cortex comme ça. Mais normalement, la masse cérébrale est... C'est pas différent, mais c'est les liaisons, les connexions sont différentes. Le cerveau droit, qui est ici, il gère les émotions. Il gère les affects. Il gère les choses globales. Il gère tout ce qui est artistique. Tout ce qui est imagination. C'est le chaos. Là-dedans, c'est le chaos, c'est le désordre. Le cerveau gauche, il est l'ordre. Il range les choses dans des boîtes. Okay. Et le cerveau droit, donc qui est ici l'émotion, et grâce aux connexions énormes qu'il y a entre les deux, s'il n'y avait pas de connexion, il ne se passerait rien. Et d'ailleurs, ils ont fait des expériences. Ils ont coupé, je ne sais pas dans quelles conditions, les cerveaux de certaines personnes, effectivement, ils ont vu le résultat. Quand il y a une interconnexion à l'image de ce qui se passe entre le Père et le Fils, il y a une créativité qui sort. Mais une créativité qui est réelle, qui est juste, qui marche. Parce qu'une créativité, on peut toujours avoir une créativité, hein. Mais c'est du n'importe quoi. C'est-à-dire que quand vous voulez agir, quand vous voulez mettre en œuvre, quand vous arrivez à la partie mise en œuvre, hein, alors là, je m'adresse aussi à des informaticiens. Vous pouvez tout inventer, des langages, des trucs comme ça. Mais c'est quand vous mettez en œuvre, est-ce que ça correspond à ce que le client vous demande ou pas? Si ça ne correspond pas, bah, vous avez travaillé pour rien. Donc il faut que la mise en œuvre ici corresponde à une créativité qui a une rationalité, qui corresponde à une réalité efficace, en partant d'un désordre dans lequel vous imaginez tout un tas de choses et vous commencez à créer, et vous passez ça sur le côté droit, ou le côté gauche, enfin, vous voyez, c'est inversé, pour que ça soit traité de manière rationnelle. Et donc là, nous sommes dans le masculin-féminin que Dieu a créé. Et c'est comme ça que Dieu fonctionne, et c'est comme ça que nous, on est supposé fonctionner. Et c'est ce que disent donc les chrétiens qui analysent notre société, qui disent aujourd'hui, on est complètement passé vers le côté de l'émotion, vers le côté du féminin. Et donc, ça explique ce désordre, ça explique cette passivité du masculin, hein, qui a été abandonné totalement et qui est porté par les hommes. Mais bon, ça c'est de la sociologie, et je ne vais pas rentrer là-dedans aujourd'hui. Je vais prendre un autre exemple, pour bien vous faire comprendre comment fonctionne la Trinité, surtout à notre niveau, parce qu'on ne va pas essayer de chercher comment fonctionne Dieu lui-même, ça nous dépasse, mais comme on est créé à l'image de Dieu, c'est bien de savoir comment nous on fonctionne. Je prends un autre exemple. Si vous prenez par exemple un projet, prenons le projet de la Tour Eiffel, prenons, je sais pas, je pense au pont Millau, là, le pont qui vient d'être fait, c'est Millau, c'est ça ? Le viaduc de Millau. C'est des ouvrages d'art. Okay ? Pour faire ces ouvrages-là, vous imaginez bien qu'une seule personne ne peut pas la faire. Okay ? Donc, en fait, il y a 3 mètres. Il y a 3 mètres. Il faut 3 personnes qui soient des maîtres pour que ces ouvrages, et des moindres aussi, ce qui est le cas pour nous aujourd'hui, puissent être une action qui débouche sur quelque chose de concret et qui tienne la route et qui ne se casse pas la figure. Personne ne voudrait que... vous savez, il y en a un qui s'est cassé la figure, vous vous rappelez, à Roissy, un terminal qui s'est écroulé, hein, parce que le maître d'œuvre n'a pas mis assez de fer, parce qu'il a voulu économiser sur le fer, parce que c'est ça qui coûte le plus cher, et ça s'est écroulé. Heureusement, il n'y avait personne dessous, il y a eu des centaines de morts. Alors, pour qu'un ouvrage, donc comme celui-là, pardon ? Ah bon, il y a du monde. Ah, je croyais qu'il y avait. Ah bon. Il aurait pu y en avoir des centaines, hein, s'ils étaient tous dessous. Voilà, donc on revient à notre ouvrage. Dieu a fait un ouvrage extraordinaire, l'univers. Regardez ce que nous sommes. Donc si nous, en tant qu'êtres humains, nous voulons être à l'image de Dieu, faisons un ouvrage, il faut 3 mètres. Il faut, ici, un mètre d'ouvrage. C'est quoi le mètre d'ouvrage ? Le mètre d'ouvrage, c'est celui qui a l'idée, déjà, de faire quelque chose. L'idée, c'était de traverser la France par le viaduc, parce qu'avant, il fallait faire le tour, je ne sais pas combien d'heures il fallait, enfin bref. Donc l'idée, c'était de dire, on va faire un viaduc, et on va gagner à tous les milliers et les millions d'automobilistes, je ne sais pas, 2 ou 3 heures de trajet pour aller à Aix-en-Provence, je ne sais pas où, Montpellier, voilà, j'ai jamais pris ce viaduc, pareil, c'est formidable. Bon, c'est vrai par tous les ouvrages. Mais il fallait quelqu'un qui ait l'idée de le faire, et qui soit déterminé à le faire. En l'occurrence, c'était l'État. Okay. Pour ce qui est de la Tour Eiffel, pour reprendre la Tour Eiffel, le maître d'ouvrage à l'époque, bah, c'était aussi l'État, parce qu'ils avaient fait l'exposition universelle de 1889, voilà. Enfin, c'était 100 ans après la Révolution. Mitterrand a fait les 200 ans après. Donc, à l'époque, il y avait une volonté, un maître d'ouvrage. Maître d'ouvrage, il débourse les sous. Il faut qu'il ait des sous. Sinon, ça ne se fera pas. Il faut qu'il ait l'idée, il faut qu'il ait la volonté, il faut qu'il ait beaucoup de choses pour arriver jusqu'au bout. Maître d'ouvrage. Donc, il faut un maître d'ouvrage. Il faut toujours qu'il soit derrière cette idée, et Dieu est toujours derrière ses idées. Hello ? Dieu fait les choses à merveille. Donc l'homme, le côté masculin, le côté masculin, je ne parle pas du sexe masculin, je parle du côté masculin, doit être présent. C'est le maître d'ouvrage. Qu'est-ce qu'il faut après pour que on puisse accomplir cette œuvre ? Il faut un maître d'œuvre. C'est quelqu'un qui tient compte des données architecturales, des données, des besoins, pour que ça tienne debout. Donc il faut quelqu'un qui apprenne les lois. Et vous savez, Jésus est un maître d'œuvre extraordinaire. Quand vous lui confiez quelque chose, il réussit à tous les coups. Amen. C'est pourquoi on peut se confier en Jésus, parce que lui, c'est un maître d'œuvre. Lui, il connaît toutes les règles de construction. C'est que tout en lui, tout est centré sur lui. Toute la création est centrée sur lui. C'est un maître d'œuvre extraordinaire. Il connaît toutes les règles, toutes les lois, toutes les choses. Et c'est ça qui est extraordinaire de se confier en lui. Mais sur la terre, si on veut faire une œuvre, que ce soit la Tour Eiffel ou le Viaduc, il faut un maître d'œuvre. Quelqu'un qui ne triche pas. Quelqu'un qui mette la quantité de ferraille dans le béton correctement. Quelqu'un qui tienne compte de toutes les lois qui sont là. J'ai pu avoir la chance de travailler à l'aéro sur les satellites là qui volent à 36 000 km. Mais je peux vous dire qu'il faut connaître beaucoup, beaucoup, beaucoup de lois. Beaucoup de lois. Parce que là-haut, rien que les pièces qui travaillent, et travaillent d'un côté exposé au soleil à plus 120 degrés, et de l'autre côté, simplement du côté opposé, à moins 273 degrés. C'est pas moins 3 degrés. Hein. Alors imaginez des matériaux, c'est comme des bananes. Hein. Ça se transforme dans tous les sens si vous n'avez pas des bons matériaux. Donc il faut inventer les matériaux. Et donc il faut d'abord passer par le laboratoire pour inventer des matériaux qui n'existent pas. Il faut les fabriquer ensuite. Donc vous savez, la maîtrise d'œuvre ici est absolument considérable, mais c'est passionnant. Passionnant. Et donc, il faut un maître d'œuvre qui ne fait pas la même chose que maître d'ouvrage, mais ils travaillent tous sur le même ouvrage. Okay ? Et ensuite, après, qu'est-ce qu'il faut ici ? Qu'est-ce qu'il faut ici ? Il faut un autre maître. C'est le contre-maître. Il y en a qui savent ce que c'est que le contre-maître, là, tu sais, toi ? C'est quoi le contre-maître ? Non. Contrôle, c'est pas la qualité, le contre-maître. Le contremaître, il a été créé par Napoléon Ier d'ailleurs, et les hommes à métier, c'était des contremaîtres. Les contremaîtres, c'est celui qui dirige les ouvriers, celui qui dirige l'œuvre, c'est-à-dire qui est aux ordres du maître d'ouvrage et du maître d'œuvre, et qui dirige les opérations de tout le personnel qui travaille sur l'œuvre. C'est ça le contremaître, enfin, au sens noble du terme. Maintenant, contremaître, c'est dans la hiérarchie. On est descendu dans l'idée, mais dans l'idée, vous prenez le dictionnaire, vous verrez, contremaître, c'est celui qui dirige les opérations sur le terrain. Le Saint-Esprit dirige les opérations sur le terrain, vous croyez ? Si on se confie à lui, il dirige vos opérations dans vos projets sur le terrain. Faites-lui confiance. Mais ces trois personnes travaillent ensemble, ces trois maîtres travaillent ensemble, sur le même ouvrage. Et c'est comme ça la Trinité. Où Dieu, il travaille dans une collaboration intime à l'intérieur de lui-même, dans ses différentes fonctions, et nous, ça se fait au travers du cerveau gauche, qui est cerveau de genre masculin, le cerveau droit de genre féminin, et le corps qui agit, qui se moue et qui met en œuvre le travail sur le terrain. Vous me suivez là ? Ouais, je suis en train de vous déprogrammer. Ça, c'est le masculin et le féminin selon la création de Dieu dans la Bible. Ensuite, après Genèse, ça c'est Adam. Dieu le créa, Adam. Adam, c'est Adama, c'est l'homme et la femme. Et ensuite, il dit il les créa. Et donc on tourne un volet, le chapitre 2 de Genèse. Dans le chapitre 1, c'est ça. Chapitre 2 dans Genèse, et Dieu dit comment il créa l'homme et la femme. Donc là, on arrive au sexe. Voyez-vous, ça vient. C'est juste une application du féminin, du masculin, pour procréer, pour permettre à ce qu'on puisse procréer des êtres pour continuer l'espèce. Et là, en fait, il les créa, hommes et femmes. Si vous voulez, le fameux symbole habituel, il les créa, hommes et femmes. Mais ce n'est qu'une application. Donc, si je reviens sur ce que je voudrais vous enseigner ce matin, c'est que l'homme et la femme ne sont pas deux choses distinctes. C'est d'abord l'homme et la femme, avec grâce à leur cerveau, avec les deux hémisphères, sont tous masculins et féminins. Et le drame d'une personne qui n'est pas bien dans sa peau, d'une personne qu'on appelle une personne dysfonctionnelle, et aujourd'hui, tout le monde en arrive à une dysfonctionnalité, on arrive vers du pervers, du narcissisme, parce que ces choses-là sont coupées ici. Un homme est coupé de son masculin et il n'est pas en contact avec son féminin. Donc du coup, il ne ressemble plus à Dieu dans sa façon de fonctionner. Officiellement, il a un corps d'homme, mais dans son comportement, il n'a pas du tout le comportement que Dieu avait donné au départ. Il n'a plus de créativité, parce qu'il n'est plus en contact avec le féminin. L'inverse est vrai aussi. La femme qui n'est pas en contact, qui n'a pas été identifiée dans son genre féminin, eh bien, elle va toujours essayer de ressembler soit à du masculin, soit à autre chose, et elle est coupée de son féminin, et du coup, coupée de son masculin. Ça, c'est tout l'enseignement de Léon Penn. Là, je ne peux pas vous résumer ça en 5 minutes. Il faudrait plusieurs heures. Donc, pour l'instant, je ne peux pas vous rentrer là-dedans. Donc ça, c'est chaque être humain. Il doit avoir cet équilibre où, entre, d'ailleurs, le fonctionnement normal, ça se fait, mais dans l'identité, si on ne le reconnaît pas, on bloque ces choses-là. On bloque ses capacités, on bloque les capacités imaginatives, on bloque les capacités rationnelles. Donc il faut créer cette relation à l'intérieur de chacun d'entre nous par une guérison du masculin, une guérison du féminin. Maintenant, si vous allez dans le mariage, par exemple, dans l'homme et la femme, donc là, Genèse 2, Dieu créa l'homme et la femme. Tout simplement parce qu'il a donné au masculin plus de capacités masculines et à la femme plus de capacités féminines, c'est tout. Mais les deux sont trinitaires. Mais par contre, à un moment donné, il y a un symbolisme, le symbolisme qui se trouve entre Jésus et l'Église. Jésus et l'Église, Jésus, lui, il est la tête. Jésus est la tête et nous sommes les membres. Okay? Donc ça c'est Christ et là c'est l'Église. Okay? L'Église, homme ou femme, nous sommes tous féminins par rapport à Jésus qui lui est masculin. C'est lui la tête. Vous êtes d'accord avec ça? Et donc du coup, dans Éphésiens 5, quand Paul parle d'Éphésiens 5 en disant, je vous dis là un mystère, c'est que dans le mariage, tel que Dieu l'a conçu, entre un homme et une femme qui sont ensemble, ils doivent refléter la relation entre Christ et l'Église. Et refléter la Christ et l'Église, ça veut dire que, en fait, au niveau du mariage, donc non, là je parle de l'Église, au niveau de ce mariage spirituel, je dirais, il faut que, eh bien là, dans ce cas-là, c'est Christ qui est masculin et nous féminins. Et là, l'idée, c'est l'obéissance. Voyez-vous, Christ, c'est la manifestation de la création. Donc, c'est parce qu'il obéit que Dieu, le Père, peut créer des choses. Vous avez déjà vu quelqu'un qui résiste? Vous voulez faire quelque chose à un enfant qui résiste. Vous savez, vous êtes adulte, vous savez que vous allez faire quelque chose de bien. Il résiste, il ne pourra rien faire. Et dès qu'il lâche la résistance, hop! Ah bah oui, c'est super, t'as fait un beau dessin, t'as fait des choses extraordinaires. Vous voyez, quand Dieu fait avec nous, c'est pareil. Donc, ici, c'est la capacité d'obéir. Mais non pas tel que l'homme l'a enseigné dans les générations, où l'homme, il obéit, il fait obéir la femme. Vous voyez, c'est ça que j'appelle des programmations. C'est que nos concepts masculins-féminins sont liés à la sociologie de l'homme et de la femme. C'est pour ça qu'on ne comprend pas. Donc on identifie le masculin... l'homme fort, voilà, qui impose son truc, tout ça. Mais voilà, ça c'est la chute. Ça c'est tout ce qui était véhiculé par nos expériences. Mais pas parce que ce Dieu a créé. Le Père n'agit jamais comme ça avec le Fils. Et il agit dans le cadre où il souhaite que le Fils obéisse. Et en obéissant, le Fils, il accomplit la volonté du Père. Et c'est comme ça que vous voyez comment le Père et le Fils agissent entre Christ et son Père. Et c'est comme ça qu'il voudrait qu'on agisse entre Christ et l'Église. Christ, s'il nous demande quelque chose dans sa parole, si on obéit, ah, extraordinaire. Mais parfois, on a du mal à obéir. On met du temps à obéir. Et jusqu'à ce qu'on obéisse, eh bien, on fait des bêtises et on s'en sort pas. Vous voyez? C'est là. Donc là, c'est une bonne image. Ensuite, après, la deuxième image, c'est l'image du mariage. Donc le mariage... Ah, il est là. Le mariage, donc entre un homme et une femme, c'est pareil. c'est pareil. C'est ce mystère-là qui est traduit ici dans le mariage humain. Et dans le mariage humain, eh bien, ici, l'homme est là et la femme est là. Et il faut qu'à nouveau, il y ait une relation et une communication. C'est pourquoi, nous, quand on a recréé l'Église en 98, 99 et 2000, on a dans nos visions pastorales, dans nos projets pastoraux, toute une année étudiée, et c'est pas parce qu'on le fait plus que c'est pas vrai, ayez une bonne communication dans vos couples. La bonne communication. S'il n'y a pas une bonne communication, il ne peut pas y avoir un couple sain. C'est pas possible. La communication entre le père et les fils est constante. La communication entre le mari et l'épouse, l'épouse et le mari et l'épouse, doit être constante. La bonne communication est à la base d'un équilibre juste dans le mariage. Hello ? J'ai votre attention là ? Bon, là on pourrait faire toute une prédication là-dessus, mais là je vous montre juste là, en quoi nous ressemblons à Dieu. Tout ça, c'est des applications, voyez-vous ? Christ et l'Église, c'est une application. Le mariage, l'homme et la femme sexués sont une application. Mais la base de départ, c'est que le masculin et le féminin, c'est le genre, c'est les genres que Dieu a créés pour développer une créativité. Et la base de ce livre, qui est de Christian Schwartz, il a fait une étude dans le monde entier. Alors il utilise des ordinateurs effectivement pour ça, des très très gros ordinateurs, pour gérer l'information. Et dans cette information, il regarde quelles sont les églises qui sont en croissance et celles qui sont en décroissance. Et il constate, au niveau du monde entier, hein, que celles qui appliquent ces principes-là, hein, qui sont là, hein, vous voyez toujours les aspects trinitaires, c'est celles qui croissent. Parce qu'elles répondent à ce que Dieu a créé dans sa création. C'est-à-dire cette relation entre la découverte du masculin, du féminin, et de l'action qui est concertée. Dans un mariage, l'action n'est pas prise par l'homme. L'action n'est pas prise par la femme. L'action est prise par une conjonction des deux volontés ensemble qui ont communiqué de manière à trouver eh bien, le choix qu'ils doivent faire. Vous voyez, c'est une bonne communication. Et ça, le monde ne le sait pas, ne le connaît pas. Le monde connaît le machisme ou le féminisme. Et maintenant, le neutralisme, avec, grâce à nos socialistes, laïcs et républicains. Voilà. Donc, voilà, ils ne connaissent pas. Ce sont des substituts, ce sont des ersatz, ce sont des placebos, ce sont des choses qui ne marchent pas. Parce qu'on n'a pas été construit comme ça. On a été construit pour avoir une créativité efficace qui marche dans la durée. Si vous mettez votre vie en harmonie avec ça, si vous mettez votre couple en harmonie avec ça, je vous garantis à 1 million milliard que ça marche, parce que c'est Dieu, c'est basé sur Dieu. Et là, vous aurez des projets qui réussissent, vous aurez des enfants qui réussiront leur vie, vous aurez tous les projets que vous avancez, ça marchera, parce que vous mettez en commun entre l'homme et la femme, entre vos deux cerveaux que vous avez là, hein, parce que vous êtes dans votre identité. Mais pour ça, très souvent, il faut passer par une guérison. Parce que aujourd'hui, on est poussé à devenir malade de l'absence de ces réalités et de cette identité. Et là, si vous voulez, comme je vous le disais, investir dans une connaissance, investissez là-dedans, et vous allez mieux comprendre, vous aider vous-même et aider ceux que vous avez autour de vous pour développer une relation saine et une identité qui est celle que Dieu a pour vous. Amen. Nous allons prier. Notre Dieu, notre Père, nous te remercions parce que toi qui es le créateur de toutes choses, tu nous as donné ta parole. Seigneur, très souvent, elle n'est pas claire pour nous. Et nous te prions, Seigneur, que ces choses deviennent claires pour chacun de nous, afin que nous puissions établir notre vie sur des principes que toi tu as créés. Et tu nous as créés à ton image. Alors Seigneur, nous voulons vraiment te ressembler et te demander de nous aider, Seigneur, à être transformé par la puissance de ton esprit. Nous prions au nom de Jésus. Amen.